Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Dans Espérance aujourd'hui, nous voulons réfléchir sur les problèmes trouvés dans le monde en y apportant un regard biblique.
La pauvreté et la prospérité. Voici le thème qu'Yann et son invité Jean-Luc vont à présent aborder.
Depuis quelques émissions, nous réfléchissons sur les écarts qui existent entre les riches et les pauvres, et nous cherchons à apporter à ces réflexions un regard biblique. La dernière fois, nous avons ainsi parlé des réactions des premières églises face au problème de la pauvreté. Nous avons vu que certaines d'entre elles furent de réels modèles d'amour et de solidarité, car elles firent preuve d'une grande générosité envers les démunis. Aujourd'hui, nous voulons apprendre ce qui a poussé ces chrétiens à agir de la sorte, dans un monde où l'on rencontre trop souvent le mépris et l'indifférence. Jean-Luc est de nouveau parmi nous. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Lorsqu'une personne est saisie par l'amour de Christ et lorsqu'elle désire honorer Dieu dans ses voies, son regard sur les autres change, comme sa façon d'agir. Jésus a révélé son amour envers les hommes en mourant sur la croix. Et celui qui croit en lui, celui qui a compris l'œuvre de salut qu'il a accomplie, sait à quel point Dieu l'aime. C'est cette compréhension qui le pousse en retour à aimer les autres. Yann, pouvez-vous lire un verset dans la deuxième lettre écrite par l'apôtre Paul à l'église de Corinthe, chapitre 8 et verset 9 ?
Oui, Jean-Luc. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis.
Rappelons dans quel contexte ce verset fut écrit. En fait, Paul encourage les chrétiens de l'église de Corinthe à participer généreusement à la collecte qu'il organise en faveur de la ville de Jérusalem, qui fait face à une grande famine. Pour cela, il leur rappelle que Jésus-Christ lui-même s'est appauvri afin de rendre riche celui qui croit en lui. Ainsi, il exhorte les frères de Corinthe à suivre cet exemple d'amour désintéressé et à donner largement afin de secourir celui qui se trouve dans la pauvreté et la détresse.
Je pense qu'il est important de souligner que les richesses que Jésus nous donne sont essentiellement d'ordre spirituel plutôt que matériel. Jean-Luc, pouvez-vous nous rappeler en quoi Jésus s'est fait pauvre pour nous rendre riches?
Vous avez raison. Jésus nous enrichit d'abord spirituellement. C'est pourquoi l'apôtre Paul s'exclame « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous bénit de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. » Et quelles sont donc ces bénédictions spirituelles? Nous pouvons en énumérer quelques-unes. Tout d'abord, en Christ, nous recevons le pardon de nos péchés. Nous sommes délivrés du jugement de Dieu contre nous et de l'emprise des esprits du mal. En Christ aussi, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons le privilège de le connaître et de pouvoir le prier. En Christ, nous sommes adoptés, car désormais nous sommes enfants de Dieu, et il est notre Père céleste. En Christ, nous bénéficions de l'amour fidèle de notre Père, car nous avons reçu son Esprit, et il nous aide à vivre selon sa parole. En Christ, enfin, nous avons l'espérance de la vie éternelle.
Merci de nous avoir rappelé ce que Dieu nous accorde par sa grâce. Vraiment, il nous a enrichis, car les richesses spirituelles que vous avez citées dépassent en valeur et en durée toutes les richesses matérielles pouvant exister. Mais Jean-Luc, vous avez souvent répété que c'est en Christ que nous sommes riches. Pourquoi cela?
Parce que c'est seulement par la foi en Jésus-Christ et son œuvre sur la croix que nous avons accès à toutes ces richesses. En fait, Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu, devenu homme. Or Dieu, le Fils, est éternellement riche, car il demeure dans les lieux célestes. Toutefois, afin de sauver les hommes des conséquences de leurs péchés, Jésus s'est fait pauvre. Il a accepté de quitter les lieux célestes, lieux de gloire, de paix, de joie et d'abondance, pour devenir entièrement homme et subir tout ce qu'un homme peut vivre, dont la pauvreté. Jésus a même vécu l'humiliation, car il a choisi de livrer sa vie entre les mains d'hommes violents, injustes et pervers. Ils l'ont cloué sur une croix, simplement parce qu'il dérangeait, car il menaçait leur confort et leurs intérêts. Cependant, derrière cette mort volontaire et humiliante, reposait le dessein de Dieu, son plan de salut pour l'humanité. Car sur la croix, Jésus a porté nos péchés. Il a subi le châtiment de Dieu, afin que tous ceux qui croient en lui n'aient plus à le subir, mais deviennent libres. Ainsi, par la croix, par son appauvrissement extrême, Jésus a ouvert la porte aux riches bénédictions de Dieu.
Mais faut-il nous préoccuper des besoins matériels des démunis, comme de leurs besoins spirituels?
La Bible nous enseigne qu'il faut aimer notre prochain, que ce soit sur le plan spirituel comme sur le plan matériel. Rappelons-nous les paroles de Paul au sujet de Jésus. Il s'est fait pauvre afin de nous rendre riches. Cette exhortation fut donnée afin de motiver les chrétiens de Corinthe à faire preuve de générosité et d'amour envers ceux qui mouraient en Judée, faute de nourriture. Ainsi, l'apôtre Paul a œuvré sur deux plans. D'abord, il a proclamé l'Évangile et enseigné aux frères les voies de Dieu. Ensuite, il a mis en place une collecte pour les démunis de Jérusalem, ainsi que diverses œuvres sociales. Par là même, il cherchait à s'occuper des problèmes matériels des plus touchés par la pénurie.
Nous avons appris la dernière fois que tous les chrétiens n'avaient pas forcément à cœur ce souci. Bon, cela n'a pas vraiment changé aujourd'hui. Tous ne se soucient pas forcément du sort du pauvre. Tous n'ont pas la volonté de partager le bien ou de faire des sacrifices afin de secourir les démunis. Pourquoi donc cela?
Certains chrétiens demeurent centrés sur eux-mêmes. Ils sont satisfaits de ce que Dieu veille sur eux et attendent toujours plus de lui. Toutefois, ils demeurent aveugles aux besoins de ceux qui les entourent. D'autres chrétiens, par contre, ont une approche trop légaliste de la vie chrétienne. Ils se préoccupent de respecter une foule de règlements humains. Il ne faut pas faire cela. Il faut s'abstenir de ceci, ne pas aller là. Ils se soucient tellement de s'abstenir du mal qu'ils peuvent en oublier d'accomplir le bien. Toutes ces personnes ont-elles bien compris l'Évangile, la plénitude de la grâce de Dieu? Or, Jésus nous demande d'aimer notre prochain. Il nous demande de ne pas lui fermer notre cœur, mais de penser à ce que nous pourrions faire pour lui, afin de lui venir en aide et lui faire du bien.
Mais comment sortir des attitudes égoïstes et honorer Dieu en aimant notre prochain?
Appuyons-nous sur les paroles de Paul. Lorsqu'il s'est adressé aux Corinthiens, il leur a écrit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Fixons donc les yeux sur Jésus. Laissons-nous instruire par lui. Écoutons sa voix. C'est alors que nous comprendrons la plénitude de son amour. Nous connaîtrons les richesses de ses bénédictions envers nous. Quelle que soit votre situation, que vous soyez dans l'abondance ou que vous manquiez de l'essentiel, Dieu le voit, car il connaît tout. Il sait tout. Et si vous lui appartenez, réjouissez-vous de ce qu'il vous a enrichi. Le trésor qu'il a placé dans votre cœur est éternel. Jamais il ne se souillera, ni se corrompra, et nul non plus ne pourra vous le ravir. Et à notre tour, nous pouvons donner et partager, selon nos possibilités, confiants que les richesses de Dieu pour nous ne s'épuiseront jamais.
Poursuivons à présent nos méditations bibliques sur les paroles de Jésus, connues sous le nom de béatitude. D'abord, Hélène va lire Matthieu chapitre 5, verset 4, et ensuite notre invité Charles commentera ce verset.
Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera.
Le responsable d'une organisation non gouvernementale a déclaré « Le peuple de Dieu sait ce que c'est de pleurer ». parce qu'il est sensible à la misère provoquée par le péché dans sa propre vie et dans celle des autres. Comme nous l'avons déjà appris, si nous sommes profondément attristés par l'état du monde et le péché qui habite en nous, au point parfois d'en pleurer, nous pouvons alors avoir l'assurance que Dieu nous accordera sa consolation. Or, recevoir la consolation de notre Seigneur est un véritable privilège. Mais quelle consolation Dieu réserve-t-il à ceux qui, attristés par les conséquences du péché dans le monde, tournent leur regard vers Jésus-Christ? Dieu console ses enfants en leur donnant une espérance. Dans notre monde, il existe bien des raisons de se lamenter. La présence du mal est bien réelle et ses conséquences sont dramatiques. Les injustices et les oppressions, la violence et les guerres, la famine et les épidémies et tant d'autres fléaux. Nous-mêmes, nous pouvons vivre des tragédies nous poussant au désespoir. Or, même au plus profond de l'épreuve, nous devons nous souvenir que Dieu est vivant. Il a soin des siens, il leur offre une espérance que nul jamais ne pourra leur ravir. Et voici quelle est notre espérance. Le jour arrivera où Dieu bouleversera l'ordre actuel des choses. Le Seigneur Jésus reviendra parmi les hommes, il instaurera son règne parfait et créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Si nous sommes enfants de Dieu, quand Jésus reviendra, il nous prendra pour passer l'éternité avec lui dans son royaume où la mort sera bannie à jamais. Aujourd'hui, subissons-nous la corruption et l'oppression? Quand Jésus reviendra, nos yeux verront sa justice. Sommes-nous victimes de la violence et de l'insécurité? Quand Jésus viendra, nous vivrons en paix et en sécurité pour toujours avec lui. Sommes-nous affaiblis par la maladie? Souffrons-nous d'une invalidité quelconque? Quand Jésus reviendra, il nous donnera un nouveau cœur, incorruptible et vigoureux. Sommes-nous attristés par les conséquences de nos péchés, par celles des autres aussi, par nos relations avec nos semblables parfois difficiles, par notre marche avec le Seigneur si inconstante? Quand Jésus reviendra, il ôtera le péché de notre existence et nous connaîtrons la joie de vivre en communion parfaite avec notre Père céleste. Malheureusement, il existe bien des raisons de se lamenter. Mais gloire à Dieu, car celui qui met son espérance en l'Éternel le verra un jour et il passera l'éternité avec lui. Il entrera dans un lieu où les larmes ne couleront plus, où le mal n'existera plus, où la mort ne se trouvera plus, et il jouira de la présence de son Dieu pour l'éternité. C'est cette espérance qui nous fait tenir ferme dans le malheur, qui nous aide à persévérer dans l'affliction et à tout endurer, persuadés qu'aucun mal ne nous séparera jamais de l'amour de Dieu. Voilà notre consolation.
Sur ce, nous vous quittons, en priant que le Dieu de toute consolation réponde à votre besoin.
Alors nous vous disons au revoir et à la prochaine.
Et que Dieu vous bénisse.